Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Oui, merci. En français, s'il vous plaît. Donc, on veut voir la sanctification, mais dans la pratique, dans l'introduction, vous avez quelques passages là, des versets 21 à 24 qui sont à l'écran. Donc, ça nous parle qu'on est appelé à se dépouiller de notre ancienne vie. Donc, le vieil homme, l'ancienne vie, on avait comme un manteau, on avait plein d'habitudes, on avait une conduite. Et quand on vient au Seigneur, on est appelé dans cette sanctification-là à se dépouiller, à enlever des affaires. Puis là, on veut pas rester tout nu, on veut se revêtir. Quand on enlève des mauvaises actions, des mauvaises pensées, des mauvaises habitudes, on veut se revêtir. Et là, on va se revêtir de Christ, on va se revêtir selon l'homme nouveau dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et vraiment, cette expression-là qui est en gras dans le verset 24, revêtir l'homme nouveau, créer selon Dieu, c'est Dieu qui le crée. Cette sainteté-là qu'on va voir, une sainteté pratique, bien enracinée dans la vie de tous les jours, c'est Dieu qui la crée. C'est le Saint-Esprit qui la suscite. Est-ce qu'on a un rôle à jouer dans ça? Bien oui, hein, un peu comme il est dit dans 2 Pierre 1, tu sais, faites tous vos efforts pour joindre. Donc, il y a ces deux aspects-là. Nous, notre responsabilité, c'est de voir la parole puis de dire, Seigneur, moi, c'est je veux me dépouiller de l'ancien homme puis je veux revêtir l'homme nouveau pour avoir dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La parole de Dieu, l'enseignement, toutes les vérités de Jésus vont venir dans notre cœur, dans notre âme, et on va dire, oui, Seigneur, c'est vrai, je croyais à toutes sortes de faussetés sur comment vivre, puis toi, tu m'amènes la vérité, donc je veux pas seulement avoir une sainteté en position. Hein? Ça, c'est rassurant, c'est la grâce de Dieu. Devant lui, à chaque instant, on est comme sans péché. Pas qu'on n'en a pas, mais on a la justice de Jésus qui nous lave continuellement. Puis, on peut mourir, comme disait Ben, la fin du monde peut arriver. On sait qu'on est dans la justice de Dieu. Donc, en position, on a cette sainteté. Mais Dieu, il veut pas qu'on soit des tout croches, qu'on agisse à l'encontre de ses valeurs, à l'encontre des enseignements de Jésus, de dire, ouais, mais moi, je suis juste saint en position. Cette sainteté-là, en position, nous amène à la sanctification dans la pratique. Et c'est ce qu'on va voir. Si on commence, vous savez comment on a une belle histoire d'amour, moi et cette télécommande. Elle me résiste, je pèse deux fois, je reviens. Puis mais on finit par s'entendre, il faut qu'elle se réchauffe un peu là. C'est bon. Donc, le premier point, verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, le premier point est tellement pratique. Comment on fait pour être saint? On arrête de mentir et on commence à parler selon la vérité. Hein, c'est la vérité qui va produire la sainteté. On est créé selon Dieu. Donc, tout de suite en partant, c'est pourquoi renoncer aux mensonges. Il était intéressant de noter que pour chacun des domaines précis, Paul parle d'une manière un peu enfantine. Hein? Déjà là, il donne des directives, là. Il nous dit ce qu'il ne faut pas faire, puis il nous dit clairement ce qu'il faut faire. Mentez plus, puis dites la vérité. En fait, les Éphésiens avaient besoin de se faire dire quoi pas faire et quoi faire. Et je pense que c'est la même chose pour nous. Bien des fois, quand on est dans le combat, qu'on lutte, « Ouais, mais c'est-tu vraiment mal? Je suis en train de mentir. J'ai le droit quand même de sélectionner la vérité, puis je trompe personne, puis Dieu, ça le dérange pas. » Quand on est dans des luttes, des combats comme ça, c'est bon d'avoir des choses claires hein, que le Saint-Esprit peut ramener. Renoncer au mensonge et parler selon la vérité. Le mensonge, hein, c'est dire des choses qui sont pas vraies et parfois c'est ne pas dire des vérités qu'il faut dire, hein, mentir par omission en cachant la vérité, en sachant très bien que le fait de ne pas dire l'information que l'autre personne aurait le droit d'entendre et on en prive. Les formes que peuvent prendre le mensonge sont variées. On peut tromper, dissimuler, cacher, omettre de dire des choses. Quand ça parle de renoncer, ça fait un lien avec notre passé. La grande majorité des gens, la grande majorité d'entre nous, on mentait régulièrement. Moi, je lève la main. Quand ça pouvait me sauver du trouble ou juste arranger des angles, pas nécessairement pour voler les gens, mais mentir, là, c'était, j'avais été habitué à ça. Chacun de nous, on a menti beaucoup et à de multiples reprises. Ça faisait partie de notre façon d'être. On peut mentir pour toutes sortes de raisons, pour sauver de l'argent, hein? Quand tu vas sauver une centaine de dollars sur une transaction face au gouvernement, peut-être ils peuvent pas le savoir je dirais que je le savais pas, mais mentir pour sauver de l'argent, mentir pour se sortir d'une situation embarrassante, mentir par habitude. On réalise qu'on a menti à personne pour Dieu. Mais je ne suis même pas aperçu, je l'ai fait par habitude, instinctivement. Mentir pour notre avancement personnel, on peut mentir par vengeance ou simplement pour le plaisir de la chose. Et toutes ces tromperies qu'on jugeait acceptables avant, c'était du mensonge. Et là, en venant à la vérité, en venant à Jésus, on veut faire une coupure. On veut qu'il y ait une transformation. On veut que notre sanctification en position se transpose dans une sanctification pratique. Le mensonge fait partie du vieil homme de notre passé et il faut se dépouiller. Et il faut arrêter de mentir. Maintenant, on veut dire la vérité et plusieurs fois, il faut savoir, à certaines occasions, justement, se taire ou dire, écoute, j'aimerais bien répondre à ta question, je veux pas te dire des mensonges, je peux juste pas te répondre, c'est pas à moi de te dire ça, ou encore, j'aime mieux, je te dis que je peux pas te répondre. Ça, c'est des réponses acceptables. Ah, un petit peu plus loin. Dans les Écritures, on a beaucoup d'exemples hein, des mensonges. On peut mentir par notre vie, pas juste par notre bouche. notre vie peut être un mensonge en essayant de cacher notre réalité. Vous pouvez être dans la dépendance à l'alcool, à la drogue, au jeu, à la pornographie, ou un sujet tellement actuel et dans un sens, on est content que ça sorte, même si ça bouleverse, hein, toutes les inconduites sexuelles, les agressions, des choses qui étaient là et que les gens nous envoyaient une image d'eux-mêmes où ils prétendaient être des gens de confiance, des gens respectueux, des gens dignes de respect. Et tout à coup, ça sort. Et encore cette semaine, Sylvie puis moi, on a été bouleversés. Je ne mentionnerai pas le nom, mais c'était un ancien dans une église, un enseignant dans des écoles chrétiennes, un responsable de camp chrétien où à chaque été, il y avait des milliers de jeunes. Il a été accusé, mis en accusation d'agression sexuelle, d'inconduite, de plusieurs choses. Et Sylvie et moi, là, on n'en revenait pas. On était vraiment sous le choc. Et on attend de voir si ça va être vrai, mais de prétendre. On peut mentir, merci. On peut mentir par notre vie, par nos actions. On veut renoncer au mensonge sous toutes ses formes. Et la clé, si vous avez été pendant un temps, c'est la confession. D'aller voir les bonnes personnes en premier, confesser, de dire, écoute, j'ai toujours caché des choses dans ma vie, je vous ai menti, je veux arrêter de faire ça, je veux... Et là, il y a des étapes où on veut le faire avec sagesse, là. Proverbe 20, 17, je suis allé un petit peu... Proverbe 20, 17, que j'aime beaucoup, hein? « Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. » Quelle image frappante, hein? « Tu mens, puis tout à coup, là, quand la vérité est connue, c'est comme si tu avais une patate chaude dans la bouche, mais là, c'est encore pire qu'une patate chaude, hein? C'est... Tu as du caillou, là, du gravier plein la bouche. Puis, on ne veut pas se retrouver dans cette situation-là. L'expression que vous avez, que chacun de vous parle selon la vérité, c'est une citation assez littérale de Zacharie 8, 16, 17, qui dit « Dites la vérité, jugez selon la vérité et n'aimez pas le faux serment. » Les deux versets sont un petit peu plus longs, là. Si ça vous tente, vous irez lire. Moi, j'ai bien aimé, j'ai relu là, plusieurs fois ces deux versets-là, en disant « Ah oui, c'est de là que ça vient, puis c'est exactement dans l'idée de Dieu. » Une des raisons pour ne pas mentir, pour parler selon la vérité, c'est que c'est la nature de notre Dieu. Au verset 24, ça dit qu'on a été créé selon Dieu, puis la sainteté que produit la vérité. Notre Dieu est un Dieu de vérité, hein? Jésus, la vérité, est toujours associée à lui, hein? Jésus a dit « Je suis la vérité ». Jésus enseigne la vérité. Il est dit dans la parole que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Une des bonnes raisons pour dire la vérité, de dire « Seigneur, je veux te ressembler puis je veux être selon ta nature. » Dieu est vérité, mais l'adversaire, quand il ment, ben ça vient de son fond, hein? Ça vient de son plus profond, ça vient de sa nature réelle, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable était notre père avant. Ben voyons donc, Richard, le diable n'a jamais été mon père, tu sais, j'ai jamais adoré. Oui, le diable était notre père et on faisait les œuvres de notre père. On mentait, puis c'était dans notre nature. Jésus a dit aux pharisiens, vous avez le verset ici, « Vous avez pour père le diable ». Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il ne se tient point dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Quand on réalise que notre Dieu, notre Père est vérité, qu'il dit la vérité, qu'il est lui-même la vérité, hein, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, à ce moment-là, on veut demeurer dans la vérité et notre âme se sent bien, notre esprit est reposé. On peut avoir la joie du Saint-Esprit d'avoir été dans des situations difficiles et de dire, « Seigneur, à cause de qui tu es, à cause que je suis saint et que je veux être saint dans mes paroles, j'ai parlé avec vérité et j'en ressens vraiment une joie. » Une des autres raisons qui est donnée pour dire la vérité, c'est car nous sommes membres les uns les autres. On est liés. On est ensemble, on est des frères et sœurs. Normalement, on ne ment pas aux siens, aux gens qu'on aime, à ceux de notre famille, à nos proches. Pourquoi on a un lien qui nous unit? Il y a une confiance et on ne veut pas se tromper les uns les autres. Colossiens 3:9, qui est le passage parallèle à celui qu'on a dans Éphésiens, ça dit « Ne mentez point les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » On est en communion profonde les uns avec les autres par le sang de Christ. On est unis les uns aux autres par l'amour de Jésus. Un mari, je l'espère, ne mentirait pas à sa femme, hein, sinon il y a ce lien de confiance qui est brisé, la relation, l'intimité, la communion, le fait qu'on peut compter un sur l'autre, c'est brisé, puis ça a besoin d'être restauré, puis ça prend du temps avant de regagner la confiance. Comme le mensonge n'a pas sa place dans le couple, ça n'a pas plus sa place dans l'Église, dans les relations frères-sœurs, dans la communion fraternelle. On est membres les uns des autres. On est venu à la lumière. On est venu à la vérité. Et on veut marcher dans la vérité. On veut vivre comme des enfants de lumière. Et à cause de ça, on est associé intimement à la vérité. Au tout début de l'Église primitive, hein, quelques semaines, peut-être un mois et demi, on ne sait pas là côté chronologie, mais c'est au tout début, en acte 5, on a cet exemple tellement frappant d'Ananias et Saphira. Et à notre époque, on pourrait dire, ils n'ont pas fait grand-chose, tu sais, c'était pas si grave. Ils ont même fait une bonne action en offrant un don au Seigneur pour le soutien des frères et sœurs dans le besoin. Le seul problème, ils ont tout simplement dit qu'ils avaient vendu leur champ 5 000 $. Puis ils ont dit, nous autres, on a vendu le champ, puis tout l'argent de la vente du champ, on vous le donne, voici le 5 000 $. Mais en fait, ils l'avaient vendu 10 000, puis ils en ont gardé un montant pour eux. Et l'erreur, ce qu'ils ont fait, c'est quand ils ont vu que un des frères notables avait vendu un champ puis qu'il avait tout donné le montant, ils ont dit, ah, on va faire pareil. Mais ouais, c'est un gros montant, on va mentir. Ils ont menti pour passer pour plus généreux qu'ils ne l'étaient en réalité. Et le passage nous relate les paroles de Pierre. Il dit, comment Satan a pu remplir ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Est-ce que Dieu est préoccupé par nos petits mensonges, nos demi-vérités, pour nos légers contournements de la vérité? Oui, il est préoccupé pour ça. Heureusement qu'il ne nous fait pas mourir instantanément, comme parce que je pense qu'il n'y aurait plus grand monde cet après-midi, ce matin dans la salle. La vérité vient établir les faits. La vérité vient enlever toute honte, toute confusion. La vérité nous place dans la lumière, en communion avec Dieu. Et c'est le fun d'avoir aucun mensonge, de dire, écoute, il n'y a rien dans ma vie que si vous le saviez, c'est ma fille qui m'a annoncé là, la triste nouvelle d'un homme qui a prêché, un prédicateur hors pair, apprécié, un directeur de camp, enseigné pendant 30 ans dans des écoles chrétiennes, un homme dans notre association que tout le monde connaît. C'est ma fille qui me l'a annoncé et j'étais tellement troublé, je voulais pas le croire que c'était arrivé. Et j'ai dit à ma fille, j'ai dit, Catherine, tu peux être certain que ton père, il n'y a rien dans sa vie comme ça. Elle a dit, ben papa, je le savais. J'ai dit, si jamais il y a quelqu'un qui te dit qu'il arrive quelque chose, appelle-moi parce qu'il n'y a rien. Ça, c'est ce que produit la vérité. Si on pêche, on confesse, on vient à la lumière et on ne marche pas dans le mensonge, on reste dans la vérité. Précision pour les consciences plus sensibles. Parfois, je suis pas loin d'avoir une conscience plus sensible puis des fois trop sensible. En tout cas, au début de ma vie chrétienne, là, j'étais prêt à dire la vérité sur tout puis à retourner à l'âge de 10 ans puis d'en faire beaucoup. Si des brigands rentrent dans votre maison de nuit pour s'en prendre à vous, vous avez le droit de mentir en disant « Je viens d'appeler le 911, la police s'en vient. » Comprenez-vous? Vous n'êtes pas en train d'attaquer la nature de Dieu, vous êtes juste en train d'utiliser de sagesse puis de protéger ceux qui sont là dans la maison. Hein? S'ils vous demandent « Êtes-vous seul? » puis que vos enfants dorment à l'autre bout, « Oui, je suis seul. » Vous avez le droit. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais quand c'est le gouvernement, par exemple, parler selon la vérité. L'on sait quand on ment pour tromper. Si un fraudeur vous demande vos données personnelles, puis vous êtes mal pris, vous avez le droit de l'envoyer dans les patates en lui disant toutes sortes de choses qui sont pas vraies. Est-ce qu'on a un exemple d'un homme qui a menti comme ça, puis que Dieu lui a dit qu'il a bien fait, puis qu'il a même vu l'intervention de Dieu? Oui? Oui, hein, ça en est un autre. Excellent, hein, les sages-femmes qui ont aidé la mère de Moïse en partant, qui a vu que l'enfant était beau, puis qu'il était dans le plan de Dieu, Moïse. Puis elle a menti, puis toutes les sages-femmes aussi qui ont accompagné le mensonge, et c'était voulu, hein, c'était, ils voulaient tuer tous les enfants mâles, là, c'est, moi je pensais aussi à David, hein, qui a fait l'insensé devant Abimélec, si Abimélec avait su, c'est lui David, il aurait coupé la tête tout de suite, puis là il a fait l'insensé, il a bavé, il a fait comme s'il était un peu dans une crise de démence. Puis là, Abimélec a dit, écoute, j'ai tué assez de fous dans ma maison pour que vous m'en ameniez un autre. Pas David, ça pas en tout. Et après, il a écrit un psaume, hein? Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange, et elle sera toujours dans ma bouche. Puis c'est au moment où ça dit, lorsqu'il contrefit l'insensé devant Abimélec. Donc, j'espère que on est tous différents. Il y en a qu'on a besoin de dire, hey, toi là, t'as le mensonge facile. Tasse-toi un peu, là, va plus du côté de la vérité. Il y en a qui sont déjà dans la vérité, puis en envoyant un passage comme ça, qui peuvent se mettre un fardeau de culpabilité et de se compliquer la vie que Jésus demande pas ça. Donc ça, c'est toute notre vie en grandissant avec la maturité qu'on développe, le jugement, le discernement. Puis j'ai confiance que Jésus va vous diriger dans ça. Deuxième domaine où on veut grandir dans la sanctification. Deuxième domaine où on veut vraiment arrêter de pratiquer quelque chose puis grandir vers la sainteté. La colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Je vous ai pas mis le verset, mais c'est le verset 26. C'est un texte qui, pendant un certain temps, en tout cas dans notre association, pendant 10 ans de temps, là, il y avait une mode, hein, même une controverse, qui disait, mettez-vous en colère. Là. Il y avait la mode où, regarde Jésus, lui, il a tout brisé dans le temple, puis tu sais, Jésus, il fait jamais de péché, puis tout ce qu'il fait, c'est bien. Donc, mettez-vous en colère, là. Piquez des 5 colères, mais ne péchez point. Comment? En vous couchant pas sur votre colère, en réglant ça le soir. Un petit mouvement qui nous disait de se mettre en colère, une 5 colères, sans pour autant pécher. Mais ça n'a pas duré et c'est un peu normal parce que juste l'ensemble du passage et l'ensemble du Nouveau Testament nous dit le contraire. Quand on va avec les quelques passages qu'on voit juste un petit peu plus loin au verset 31, ça dit que toute clameur, que toute animosité, que toute colère disparaisse du milieu de vous. Donc déjà dans le passage, ça dit idéalement lorsqu'on ne veut pas vivre avec cette colère-là, on ne veut plus se mettre en colère. Colossiens 3:8, qui est un peu le passage parallèle, parce que Éphésiens et Colossiens ont 55 versets similaires, identiques, qu'on peut jumeler. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. Jésus a dit que celui qui dit « raca, nul ou stupide » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Combien on peut faire du tort quand, sous le coup de la colère, on insulte les gens, on dit des mots, après ça on dit qu'il a dépassé notre pensée. 1 Timothée 2:8 qui nous demande d'élever des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Jacques 1:19-20, d'être lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il est clair que le passage qu'on a ici, le verset 26, ne nous encourage pas à se mettre en colère puis de laisser sortir notre colère d'une manière inappropriée. Ce passage-là, c'est intéressant de voir qu'encore c'est cité du psaume 4:5. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Hein, c'est beau, c'est artistique, c'est poétique. L'idée qui est là en arrière, c'est « sois fâché, mais pêche point ». Et vous me connaissez assez depuis quelques années pour savoir que je crois qu'on doit se donner la liberté de ressentir, d'éprouver intensément la colère qui est en nous. Hein? C'est mieux que ça sorte. Il ne faut pas dire, non, je suis chrétien, je ne me mets pas en colère, je ne ressens pas de colère, je suis zen, je suis content. Non, on va virer fou comme ça. Hein? David, quand il écrivait les psaumes, des psaumes d'imprécation, hein, il disait que ses enfants deviennent orphelins. T'sais, ça veut dire qu'il souhaitait la mort de cet homme-là, tellement c'était profond là, l'indignation puis la méchanceté qu'il avait envers lui, sauf qu'il n'allait pas le dire à la personne responsable. Il écrivait ça dans ses prières à Dieu. Donc oui, on ressent, on se permet de ressentir profondément la colère, sans péché, sans laisser cette colère-là s'extérioriser d'une manière qui va faire du mal aux gens. Avant notre conversion, il se peut que la colère entraînait automatiquement une démonstration désastreuse et c'était suivi de sentiments de vengeance et d'amertume. Maintenant, avec le Seigneur, si vous vous mettez en colère, si vous ressentez de la colère, il y a encore de la place pour ça. On contrôle. On pense à l'amour, on pense aux gens. On contrôle les manifestations extérieures et on peut aussi venir devant notre Dieu. Ce qu'on veut pas, c'est que cette colère-là blesse les gens et que ça devienne tellement gros qu'on puisse plus le contrôler. Et le sens du passage, c'est si tu ressens de la colère, ne pêche pas en laissant cette irritation grandir de jour en jour. Assure-toi de pardonner, de ne pas laisser grandir l'amertume. Hébreux 12, 15 va exactement dans la même direction. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejeton ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Le passage, verset 26, ajoute « Ne donnez pas accès au diable. » On sait que notre adversaire, Satan, n'est pas sans dessein. Hein? Il est très intelligent, à notre grand malheur, mais en plus, il a des buts, il a des desseins, il a des intentions. Et une des intentions les plus grandes, c'est de diviser l'Église de Jésus-Christ, de ravager l'Église de Dieu. Et quand l'irritation et la colère grandit dans notre cœur, le diable guette. Le diable voit une opportunité. Il veut venir ajouter ces pensées-là. Il veut nous semer des idées d'avoir de la haine, d'avoir de la vengeance, d'avoir de l'amertume. Devant la colère, souvenons-nous des paroles de Dieu à Caïn qu'on a ici. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Hein? On se souvient Caïn qui était irrité parce que Dieu n'avait pas porté un regard favorable sur son offrande qui était des légumes au lieu d'un sacrifice sanglant là, d'un animal. Et au lieu que Caïn disait, écoute, j'apprends ça, on est au tout début de l'humanité, ben regarde, je vais amener un sacrifice sanglant, un animal. Il s'est irrité. Et quand on tombe dans la colère et quand cette colère-là grandit, on a besoin de venir devant Dieu, de dire, Seigneur, regarde, tu vois comment il y a un volcan, aide-moi à me calmer. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à ne pas laisser cette colère-là être un feu qui va dévorer ma vie puis qui va affecter tous ceux qui m'atteignent. Deuxième domaine. Le troisième, ne plus voler, mais travailler pour donner. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. J'aime beaucoup ce verset dans notre étude sur la sanctification parce qu'il met en lumière une transformation complète, là, de dire « Wow, c'est tellement changé! » Pas seulement de se retenir pour plus faire le mal, de ne plus voler, mais un changement profond qui fait que « Hey, j'ai le plaisir dans le Seigneur de travailler de mes propres mains pour subvenir à mes besoins. J'aurais plus besoin de voler. Mais en plus, je vais travailler puis je vais en mettre de côté pour aider celui qui est dans le besoin. Celui qui est dans le besoin puis dans le besoin, il décide de voler. Je vais l'aider, moi, le voleur, pour qu'il arrête de voler parce qu'on va prendre soin de lui. » Avant, il volait, maintenant, il travaille de ses propres mains. J'aime la formule ici, hein, que celui qui ne fasse plus, mais plutôt qu'il, afin de. C'est comme tu étais là, tu faisais ça, ben on se dépouille de ça, puis on va de l'autre côté. On veut plaire à Dieu, on veut manifester cette nouvelle vie. Et voici ce qu'on va faire afin de glorifier notre Dieu. Le vol, hein? C'est un peu comme le mensonge, c'est large. On peut dire, ben non, je ne suis pas en train de voler, je ne suis pas en train de mentir. Non, il n'y a rien d'illégal dans ça. Il y a beaucoup à travailler pour un chrétien. Quand on accepte le Seigneur, là, hey, c'est quoi je peux faire, tu sais? Je peux-tu dire que je suis au Québec, puis pendant ce temps-là, je suis aux États-Unis, puis avoir mon chômage, tu sais? Ben, dans le fond, tu sais, je sais que je ne travaillerai pas de toute façon, puis ça me permet de prendre des vacances, puis bien des questions. Voler, c'est prendre ou acquérir ce qui ne nous appartient pas, ce qui ne nous revient pas de droit. Et la transformation ici vers la sainteté conduit à mettre de côté les convoitises trompeuses. Hein? Le vol est l'une des actions qui découle de la convoitise, un désir immodéré de posséder. T'es pas capable d'avoir du contentement, de dire, écoute, pour le moment, je peux pas me payer telle chose, je peux pas l'acquérir, puis je l'accepte. Seigneur, je remets ça entre tes mains, puis peut-être que plus tard, je l'aurai. Sinon, c'est correct. On désire tellement une chose qu'on est même prêt à prendre ce qui ne nous appartient pas. Sans vouloir insulter personne ici, un très grand pourcentage des non-croyants volent des petites choses, des plus grandes choses, de façon visible ou cachée. Et parmi ceux qui ont accepté le Seigneur, un bon pourcentage volait, tu sais. Je peux pas dire que j'étais un grand voleur, mais des petites choses là où j'ai un petit avantage, on manque pas, on passe pas à côté d'une belle occasion. C'est pourquoi on a besoin de cette sanctification pour se dépouiller, pour que dans notre cœur, dans notre tête, de dire « Seigneur, je veux revêtir la justice et l'honnêteté. » Et c'est pas facile pour tous, hein? Je me souviens quand ça faisait un an et demi que j'étais chrétien, je me dirigeais déjà vers le ministère, donc je suivais des contacts, des gens qui avaient fait profession de foi, des nouveaux croyants, et il y en avait deux qui sortaient de prison, puis c'était des toughs. Ils étaient sympathiques, mais on sentait que, ouf, c'était des... je suis allé les voir deux fois par semaine pendant 4 semaines. Tu sais, on était rendus chômés, puis ils s'entraînaient en prison. Ils faisaient des haltères, puis « Richard, arrête ça, toi, un kit d'haltère, tu sais, puis oui, tu sais, puis content de les aider, puis j'en faisais pas à ce moment-là. Fait que je leur amène le kit d'haltère, mais une semaine et quelques, dans notre rencontre, je cogne à la porte, je regarde par la fenêtre. L'appartement était vide. Il était parti, le propriétaire me voit, « Hey, les connais-tu? Ils sont partis, ils me doivent 2 mois de loyer. » Puis mes haltères étaient disparus. Hein? Que celui qui volait ne dérobe plus. Il y avait encore du travail à faire là-dessus. Et ce qui était intéressant, c'est que 6 mois plus tard, pendant un an ou deux, j'ai suivi un des deux là qui semblaient vraiment avoir accepté le Seigneur. Et on n'a jamais reparlé de mes haltères. C'était comme si c'était rien passé. Sanctification. C'est pas toujours facile de ne plus voler, hein, de quitter cette vaine manière de vivre. C'est coriace. Les plis sont là. Et quand on décide de ne plus voler, il y a un coût réel, tangible, qu'on peut évaluer. Il faut être déterminé. Il faut voir la parole de Dieu puis de dire, « Moi, Seigneur, maintenant, je veux être honnête dans tous les domaines de ma vie. » Dieu désire une sainteté en principe et en pratique. Pas seulement selon la lettre, mais selon aussi l'esprit de la lettre. que ça se traduit dans la pratique. Il y a bien des choses qui ne semblent pas être du vol, mais quand on y pense, pour Dieu, c'est de la malhonnêteté. On est appelé à briller comme des flambeaux dans la nuit. Et si tout est sombre, si tout le monde fait des petites choses, puis que nous, on arrive, puis on dit non, puis sans condamner. Hein. Moi, je me souviens, là, au début de ma vie chrétienne, j'allais chercher une petite lumière qui coûtait 1,80, puis le gars, il dit, donne-moi 2 piastres, puis là, non, je veux une facture, tu sais, puis j'étais vraiment, c'était ma façon à moi d'être, de vouloir être honnête en toute chose, puis je réalise que c'était pas en train d'amener les gens au Seigneur, j'étais plus en train de compliquer la vie des gens dans bien des domaines, puis dans mon cœur, là, tu sais, j'étais un petit peu hautain. Moi, je suis chrétien, moi, je suis honnête, non, tu vas me donner ma facture, puis je veux que tu me mettes les 2 taxes, puis on apprend, hein, comment être honnête. Mais on veut briller. Dans le monde des affaires, Dieu désire une honnêteté en accord avec les valeurs de Jésus. Et là, on a besoin de ne pas laisser notre conseiller, notre comptable, nos partenaires ou notre patron décider pour nous de ce qui est honnête. Là, on ne parle plus des fois d'une petite facture qui va avoir un 5-6 cents de différence sur la taxe au bout, là. Romains 13, verset 1, verset 6 à 7, hein, de payer nos impôts, de payer les taxes, de rendre à César ce qui est à César. Quand on fait nos impôts, donner des informations fausses pour prendre des déductions auxquelles on le sait qu'on n'a pas vraiment le droit, mais qu'on se dit, ils ne peuvent pas le savoir, il y a juste moi qui peux le savoir, ils ne peuvent pas le vérifier, je ne peux pas me faire prendre. Notre Dieu est là, connaît nos pensées, connaît notre raisonnement et on veut avoir un esprit clair de dire, Seigneur, regarde, j'ai pas le droit, puis je vais marquer les choses telles qu'elles sont, puis l'argent, c'est quoi après tout? Hein? C'est juste des chiffres dans des colonnes. Des fois, il y a plus de zéro. Moi, j'ai besoin de me dire ça parce que je me soucie beaucoup de l'argent. J'ai besoin de dire, regarde, Seigneur, dans des comptes, tout, l'argent, c'est juste des chiffres. La vie, toi, tu la donnes, tu prends soin de nous et on veut demeurer honnête. On peut tellement voler hein, sur le nombre de kilomètres parcourus, les factures de médicaments, les factures d'achat des choses pour le travail, qu'on met pour le travail, mais que c'est usage personnel. Tout un défi face aux différents gouvernements. Il y a tellement de programmes, de subventions. Et moi, j'ai appris à être vraiment, vraiment transparent. Et je réalise que dans le passé, bien des fois, j'aurais eu droit à des programmes, mais parce que j'étais tiraillé d'un côté puis de l'autre, je me privais de programmes que j'avais le droit, en voulant être honnête à tout prix. Puis là, j'ai appris, je donnais ça comme conseil à des gens qui voulaient être malhonnêtes. J'écoute. Appelle la personne responsable du gouvernement, Revenu Québec ou peu importe le programme, dis-lui toute ta situation, puis c'est lui qui est mandaté pour le gouvernement de dire oui, tu y as droit ou tu y as pas droit. Et en faisant ça, bien des fois, j'avais la surprise que oui, j'avais le droit. Donc, en étant honnête, on a de belles surprises. On n'a pas besoin de cacher, puis on veut pas prendre non plus sur nous un fardeau d'être plus honnête que Dieu le demande. Être honnête, ne pas voler, c'est payant. J'ai juste à penser, là, pour la PCU, hein, le nombre de personnes qui avaient travaillé en dessous de la table, qui n'avaient pas le 5 000 $ nécessaire, puis « Je peux-tu déclarer des revenus? » Ben non, il est trop tard, il n'y a pas de... T4, il n'y a pas rien. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Entre frères, on a vu qu'on ne devait pas se mentir entre frères parce qu'on est membres les uns les autres. Encore moins devons-nous être malhonnêtes entre frères et sœurs, les uns envers les autres. Bien des fois, les chrétiens vont faire attention d'avoir un bon témoignage envers les non-croyants. Ils vont être gracieux, ils seront pas exigeants, ils vont avoir un bon témoignage hein, en disant que je vais peut-être les gagner au Seigneur. Mais ils vont être durs et malhonnêtes envers les autres frères, envers les chrétiens. Tellement un beau verset là-dessus, 1 Thessaloniciens 4:6. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Wow! Et là, les occasions sont multiples entre frères et sœurs. Tu es dans un appartement où tu as un bail et le propriétaire, c'est un frère, puis toi aussi, tu es au Seigneur. Et tout à coup, là, il faut que tu quittes, puis tu te dis quoi, hein? Oh, il est plus riche que moi, lui. Il s'en trouvera un autre locataire. J'ai pas besoin de payer une pénalité. Écoute, je pensais qu'on s'était entendu, que j'ai rendu un service en ayant un frère dans son appartement. Et on a besoin, même si c'est un frère, de trouver une entente acceptable. Quand on fait des affaires entre frères, hein, et comme pasteur, j'évitais toujours de vendre mes autos à un chrétien ou je disais, écoute, je veux pas que si mon auto lâche puis que je ne le savais vraiment pas un mois plus tard. Mais respecter sa promesse d'achat. Si c'est possible, de faire un dédommagement, faire un peu ce qui est dit dans Matthieu 5, tu sais que si tu veux, pour avoir la justice, qu'il te demande de faire 1 000, fais-en 2, de dire, écoute, je comprends, puis je suis prêt à faire telle part, puis d'essayer de s'entendre. S'assurer que ce que l'on vend est en bon état. Devant un conflit, dans une situation d'affaires, on doit être prêt à faire un pas en avant. Et comme principe, si tu n'aimerais pas te faire ce que tu fais, tu ne devrais pas le faire. Un des proverbes, je pensais que je l'avais mis ici, un proverbe que j'aime beaucoup, c'est « Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. Hein? » Je ne sais pas si vous en souvenez. « Ah, ça vaut rien, cette maison-là, puis je te donne pas plus. » Là, il exploite, puis il abuse, puis il profite de la vulnérabilité de la personne en disant « Ça vaut rien. » Et après ça, quand il s'en va, il se frotte les mains, il dit hey, « J'ai fait toute une affaire. » On veut être raisonnable, pas abuser d'un frère qui est mal pris pour le dépouiller. 1 Corinthiens 6, 7 à 8 nous parle exactement la même chose. En tout le chapitre 6, ça parle du contexte des procès entre frères où ils s'attaquent les uns les autres en justice. Puis il dit, écoute, pourquoi vous n'allez pas devant l'Église de Dieu? Puis il dit, déjà, c'est un défaut que vous avez d'avoir tant de procès. Et ce qu'on veut, c'est s'assurer que nous, dans le conflit, on n'est pas la personne qui est injuste. On n'est pas en train de dépouiller notre frère. Et verset 7, ça dit, « Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. » Donc, l'idéal, ce n'est pas qu'il y en ait un qui dépouille l'autre, mais que c'est les deux qui disent, écoute, je te comprends, puis je suis prêt pour arranger notre chose, de faire un pas, puis que l'autre dise, hey, ben non, c'est bien trop, regarde, moi je suis prêt. Hey, ben on a un terrain d'entente qui est là, qui est facile, et dans ce temps-là, il n'y en a pas de vol, il n'y en a pas de dépouillement, il n'y a pas d'injustice. Donc, le vol entre frères, c'est pas parce que c'est un frère qu'on va y faire porter la peine ou le coup dans la situation. Et trois aspects très, très, très pratiques. Et on veut se rappeler ce verset, hein? Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. On veut être saint à l'image de celui qui nous a appelés. Notre Dieu est trois fois saint. Il nous appelle à sa sainteté. Il nous lance cette invitation. Il nous lance ce défi d'être transformé. Et que le Saint-Esprit applique ces vérités-là, qui vous donne la sagesse. Hein, on ne veut pas se compliquer la vie d'une façon qui n'est pas nécessaire. On veut juste avoir ce désir qui vient de Dieu. On veut avoir la connaissance de l'ensemble de la parole de Dieu sur les trois sujets qu'on a vus. Et on veut toujours tendre vers cette sainteté, vers cette transformation. Je ne veux pas continuer à agir comme je le faisais avant de connaître le Seigneur. Je veux que Dieu fasse un changement. Je veux être honnête en toute chose. Je veux dire la vérité. Je veux être honnête. Je veux pas être celui qui dépouille les autres. Et je veux pas laisser la colère être là en train en disant... j'entendais souvent ceux qui avaient des problèmes de colère qui me disaient, hey, tu m'as pas connu avant, toi, puis c'est bien mieux, puis mais c'était encore là. Donc, on veut toujours avancer vers la sanctification. Donc, on va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, on vient devant toi en te disant, gloire à toi, Seigneur, pour la sainteté. On est des saints de nom et en position. Merci Jésus parce que tu as payé à notre place. Tu nous laves continuellement dans cette communion avec toi. Et Seigneur Jésus, merci pour la sainteté en position, mais on veut que cette sainteté se transpose, se transforme en sainteté de conduite dans la pratique. Et merci pour ces trois domaines. Seigneur Jésus, permet au Saint-Esprit de faire la lumière en nous. Permet au Saint-Esprit de toucher notre cœur sur peut-être un élément en particulier où tu veux faire un travail dans notre vie. Merci Seigneur pour la société dans laquelle tu nous as placés, où on a tellement des autorités qui sont justes, qui sont honnêtes. Il y a tellement d'opportunités, de programmes pour prendre soin de nous. Seigneur, tu nous donnes tellement de raisons d'être honnêtes, de parler dans la vérité. Et Seigneur, qu'on puisse l'apprécier et qu'on puisse abonder davantage dans cette honnêteté, dans cette transformation. Seigneur Jésus, on veut te dire que nos vies t'appartiennent. On veut que ta vérité soit dans nos cœurs. Et donne-nous la sagesse pour l'appliquer. On te le prie en ton nom. Amen. Amen.